Bonjour. Voilà, moi, je suis Christophe Petiot, neurologue libéral à Strasbourg et qui travaille aussi dans un centre de sommeil privé à Strasbourg. Donc, moi, je vais aborder un sujet très pragmatique. En fait, que faire quand ça se passe mal, hein? Quand le syndrome des jambes sans repos, on a vu, le diagnostic a été bien fait, on a commencé un traitement de première intention. Parfois, ça se passe bien, parfois, d'emblée, ça se passe pas bien. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire quand ça se passe pas très bien? Donc, quand il y a des symptômes qui persistent, ou alors quand il y a des symptômes qui réapparaissent alors qu'au départ ça se passait bien, ou alors, et ça on va beaucoup insister là-dessus, c'est quelque chose d'assez particulier dans le syndrome des jambes sans repos, quand sous traitement la maladie devient plus sévère qu'elle n'était avant le traitement. Et puis on va parler aussi d'autres effets indésirables, d'autres symptômes qui peuvent apparaître sous traitement. Alors globalement, la réflexion du clinicien devant quelqu'un qui va avoir comme ça des symptômes qui persistent ou qui s'aggravent, va comporter quatre étapes. On va se reposer la question, donc on redit, on va le redire encore 10 fois aujourd'hui, de bien rechercher à chaque fois les facteurs favorisants, notamment la carence en fer. Ensuite, on va se poser la question, est-ce que le traitement est adapté? Est-ce qu'il faut le modifier? Et puis après, il y a des questions plus spécifiques, un peu particulières, sur l'évolution naturelle de cette maladie, et puis sur des effets indésirables particuliers des traitements qu'on peut utiliser. Les facteurs aggravants, je les redonne, ils ont déjà été dits, mais Christelle en reparlera encore après, parce qu'on doit beaucoup insister là-dessus, parce que c'est vraiment la base, c'est ça qui fait qu'on ne doit pas traiter tous les patients sans se poser de questions, donc on doit toujours rechercher ces facteurs aggravants, donc les produits excitants, l'alcool, certains médicaments. On n'a pas parlé aussi de facteurs plus environnementaux, l'activité physique faite un peu trop tard le soir, un environnement inadapté pour le sommeil, notamment une chambre trop chaude, les autres pathologies du sommeil, notamment le syndrome d'apnée, et puis avant tout peut-être la carence en fer. Alors je ne reviens pas sur les raisons pour lesquelles le fer est important dans les jambes sans repos, mais en pratique, donc déjà avant de traiter et à nouveau quand le traitement ne fonctionne pas bien, il faut rechercher une carence en fer. Alors comme le disait Yves, on va rechercher une carence en fer périphérique, ce qui ne reflète pas forcément une carence en fer centrale, mais déjà si c'est une carence en fer périphérique, il faut au moins la traiter. Alors cette carence en fer, elle peut parfois s'accompagner d'une anémie, et dans le temps, les premières publications disaient que le facteur favorisant sur les jambes sans repos, c'était l'anémie. En fait, ça n'a rien à voir avec l'anémie. L'anémie, c'est une autre conséquence de la carence en fer quand elle est sévère, mais là, il s'agit bien d'un rôle direct du fer sur le cerveau et pas du tout par le biais d'une anémie. Donc, on peut avoir une carence en fer modérée qui ne va pas entraîner d'anémie, mais qui va entraîner un syndrome des jambes sans repos. Donc, pour ça, on s'intéresse à la ferritinémie avec un seuil qui varie un peu selon les équipes, entre 50 et 100. Là, on avait choisi 75 dans notre consensus. Alors donc, chercher une carence en fer, donc, bah, c'est doser la ferritine, et puis déjà cliniquement, c'est rechercher les conditions qui peuvent favoriser une carence en fer. Donc on a déjà insisté sur les dons de sang, la grossesse, l'insuffisance rénale, et puis toutes les conditions qui entraînent des pertes sanguines. Lorsqu'il y a une carence en fer, déjà avant même de commencer le traitement, ou quand on la découvre alors qu'on est déjà sous traitement, il faut la traiter. En première intention, ça se traite par voie orale, par des apports alimentaires. Le problème, c'est que ça ne marche pas toujours très bien. Il y a des gens qui absorbent pas très bien le fer, probablement sur des terrains génétiques particuliers, aussi parfois à cause de certains médicaments, notamment tous les médicaments antiacides qu'on donne pour les ulcères ou le reflux vont diminuer l'absorption du fer. Certains produits comme le thé aussi empêchent l'absorption du fer, enfin diminuent l'absorption du fer. Donc ce traitement, parfois, il n'est pas très efficace. Et puis surtout, parfois, il est très mal toléré. Il y a des gens qui ont de gros troubles digestifs avec le fer, même à petite dose. Et donc, soit on n'arrive pas à faire remonter leur réserve de fer, soit ça prendrait des années parce qu'ils peuvent prendre que des toutes petites doses. Et donc, dans ces cas-là, lorsque la voie orale est inefficace ou mal tolérée, on peut très facilement faire un apport de fer par voie veineuse. Il existe différents produits, dont un qui s'appelle le fer inject, qui s'injecte en un quart d'heure. Au cours d'une brève hospitalisation, c'est quand même une surveillance minimale, enfin les gens passent une heure ou deux à l'hôpital et repartent avec une ferritinémie qui passe de 15 à 150 en une matinée, alors que par oral, ça leur aurait pris 6 mois. Si on a bien éliminé tout ça, bien éliminé la carence en fer et tous les autres facteurs favorisants, et que ça ne se passe pas très bien, la première chose, c'est de savoir est-ce qu'il faut éventuellement adapter notre traitement. On a vu avec Yves tout à l'heure qu'il y a quand même le choix entre différents traitements. Donc on essaye dans cette médecine personnalisée de choisir d'emblée le meilleur traitement, mais parfois on se trompe et donc on peut en changer. Donc si on avait mis un agoniste dopaminergique, on peut mettre un traitement comme le Neurontin ou l'Lyrica et vice-versa. On peut être aussi amené au cours du traitement à modifier le dosage ou modifier la répartition du traitement. Parfois, le patient va prendre son traitement trop tard, donc les impatiences sont déjà commencées et ça va être plus difficile de les supprimer une fois qu'elles sont là que de les empêcher d'arriver. Donc parfois, en avançant un peu la prise du traitement, on va finalement retrouver une meilleure efficacité sans changer la dose. Voilà, ça souligne aussi ce que disait Yves, qui est très important, c'est que ces patients doivent être pris en charge par des médecins entraînés, habitués, qui ont vu tout ça, qui ont ce feeling, cette connaissance. Donc, on modifie ou on la répartition ou le dosage du traitement, toujours en étant prudent de rester dans les doses maximales recommandées. C'est vraiment une pathologie dans laquelle il ne faut pas jouer avec ça, il ne faut pas monter au-delà de ce qui est recommandé. Dans certains cas, si on est sur des traitements de première intention, on peut passer à des traitements de deuxième intention, comme les opiacés, les benzodiazépines. Et puis, Yves en a un petit peu parlé, on ne va pas rentrer dans les détails. On peut aussi faire des associations médicamenteuses parfois pour rester dans des petites doses. Ça peut être intéressant d'avoir une bithérapie à petite dose plutôt que d'essayer de monter une monothérapie. Il ne faut pas négliger aussi les traitements non médicamenteux. C'est les patients qui les ont appris, en fait, ces traitements-là, hein, des gens qui ont... clairement trouver que certaines formes de massage ou des douches rafraîchissantes ou des gels rafraîchissants peuvent les aider. Alors il y a des choses plus ésotériques comme le savon de Marseille au fond du lit qui n'auront pas été vraiment l'objet d'études contre placebo. Mais, mais en tout cas, certainement, les techniques genre douche, gel rafraîchissant, ça peut aider. Parce que souvent, il y a aussi une sensation de chaleur dans les jambes. Les gens, ils ont besoin de bouger les jambes, mais souvent aussi de les rafraîchir, de sortir les pieds du lit. Et donc ceux-là, quand ils mettent des choses qui rafraîchissent un peu, ça leur fait du bien. Ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'il y a une grande variabilité individuelle dans la réponse au traitement. Donc tous les patients, il va essayer de montrer un peu les connaissances qu'on a aujourd'hui dans ce domaine, mais il y a des choses qui sont encore largement inconnues. Clairement, les patients sont différents. Certains sont mieux répondeurs à certains traitements qu'à d'autres. Donc il faut savoir changer de traitement, adapter le traitement. Ce qui est difficile aussi, c'est l'évolution naturelle de cette maladie, parce que naturellement, c'est une pathologie assez fluctuante. Déjà, elle fluctue d'un jour à l'autre. Hein. Beaucoup de patients ont des formes un peu intermittentes, hein, donc on va considérer du coup comme des formes pas trop sévères, parce qu'ils vont avoir ça un jour par-ci par-là, un jour ou deux par semaine. Alors qu'en réalité, rien n'explique cette variabilité. D'un jour à l'autre, sans qu'il y ait d'autres changements par ailleurs, il y a des jours où ça va survenir, il y a des jours où ça ne va pas survenir. Donc ça, déjà, cette variabilité-là, on ne sait pas très bien d'où elle vient. Et on a aussi une variabilité sur du moyen à long terme. L'histoire de la maladie n'est pas du tout linéaire, c'est une histoire fluctuante, avec des moments de la vie, des mois, des années, où la symptomatologie va être plus fréquente, plus invalidante, et puis des moments où spontanément ça va mieux. Donc il faut savoir ça, et il faut s'adapter à ça. C'est-à-dire que le traitement, il faut savoir, tout en restant dans les limites recommander, augmenter le traitement dans des phases où le patient peut-être spontanément voit moins bien. Mais du coup aussi, il faut savoir aussi diminuer le traitement. C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand les patients ils vont bien depuis un bout de temps, il faut se dire qu'ils sont peut-être dans une phase spontanée d'amélioration et c'est le moment de baisser le traitement pour ne pas rentrer dans une escalade à la prochaine phase d'aggravation spontanée. D'où l'intérêt, et ça a été souligné aussi déjà un petit peu par Yves, d'un suivi régulier de ces patients. Il ne s'agit pas de prescrire une fois un traitement et puis de revoir le patient 10 ans après, l'aura fait on ne sait pas trop quoi entre-temps. Régulièrement, il faut que le patient soit revu par un spécialiste qui va se poser les bonnes questions et notamment qui va parfois se poser la question de diminuer le traitement. Alors après, si des symptômes persistent, voire s'aggravent, ça peut être aussi des effets indésirables du traitement. Et on va parler maintenant d'un effet indésirable très particulier des traitements du syndrome des jambes sans repos, qu'on appelle le syndrome d'augmentation secondaire à un traitement dopaminergique. Alors c'est vraiment quelque chose de très spécifique de cette pathologie. Donc c'est des gens qui sont traités depuis plus ou moins longtemps, souvent au début de manière efficace. Et puis à un moment, la pathologie va s'aggraver. S'aggraver dans tous les domaines, c'est-à-dire que les symptômes, on a vu qui sont très liés au rythme circadien, donc qui apparaissent généralement à certaines heures, souvent à 8h le soir ou 9h le soir, vont se mettre à apparaître de plus en plus tôt, voire à être présents un peu toute la journée. Donc ça, c'est déjà un effet qui montre que c'est devenu plus sévère. Les symptômes vont être plus étendus, on a vu tout à l'heure que c'est souvent quand même essentiellement la jambe, et là ça va se mettre à concerner aussi les membres supérieurs, voire le tronc, la tête, donc des symptômes plus étendus. Les symptômes vont être plus intenses en termes de désagréments que ça entraîne, souvent plus douloureux aussi. ils vont survenir plus rapidement au repos. Donc ça aussi, ça va être très gênant pour le patient. Quelqu'un qui avant pouvait quand même rester un quart d'heure, une demi-heure assis le soir avant que ça commence à le gêner, bah, il va être gêné au bout de 2 minutes. Donc il ne pourra plus rien faire. Donc dans ces formes sévères, les gens ne peuvent plus s'asseoir. Ils passent leur soirée debout, ils font ce qu'ils peuvent, ils regardent la télé, tout ça, debout. Et dès qu'ils se couchent, c'est insupportable, donc ils ne peuvent pas dormir. Donc cette durée de survenue à partir du moment où ils sont en repos, c'est un élément de gravité important. Ça va aussi évidemment jouer sur la gravité de l'insomnie, parce que si des symptômes surviennent dès que les gens se couchent, ils n'ont jamais le temps de s'endormir. La durée d'action des traitements va devenir plus courte. Et puis, donc ça c'est des critères internationaux hein, qui ont été validés, avec un critère supplémentaire qui est beaucoup plus discutable pour le syndrome d'augmentation, qui est de dire que ces patients vont avoir une réponse paradoxale au traitement dopaminergique. Donc l'idée, ça serait que ces patients-là, si on leur donne plus de traitement dopaminergique, ils vont s'aggraver, et si on leur en donne moins, ils vont s'améliorer, et que ça serait un critère. Alors en fait, ce n'est pas du tout un critère pragmatique, parce que c'est probablement vrai sur du moyen terme, mais à court terme, ça ne se passe pas comme ça. À court terme, quand on leur augmente leur traitement dopaminergique, ça les aide quand même. Alors, après, ça va être de pire en pire, mais transitoirement, ils vont mieux. Donc ce critère, en réalité, et c'est bien le problème, comme ils vont quand même mieux quand on leur augmente le traitement, avant qu'on soit averti de ça, et puis encore dans certains cas, pour les gens qui ne le sont pas, bah, la tendance, c'est d'augmenter toujours le traitement, parce que chaque fois qu'on augmente, il est quand même un petit mieux pendant un moment, et puis après, bah, c'est en fait de pire en pire. Donc ce qui est très particulier dans ce syndrome d'augmentation, je ne sais pas s'il existe d'autres exemples dans la médecine, c'est qu'au bout du compte, on se retrouve devant des patients sous traitement, qui vont moins bien que quand ils n'étaient pas traités. Donc en fait, vraiment, le diagnostic sur l'augmentation, c'est ça. C'est de leur dire, mais avant qu'on vous traite, il y a 2 ans, il y a 5 ans, comment ça allait ? Est-ce que maintenant, finalement, c'est pire ? Et si les gens vous disent, bah oui, finalement, maintenant, je suis moins bien que je ne l'étais avant même le traitement, donc là, c'est clairement un syndrome d'augmentation.